Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Raissa Girondin et Abdourahmane Dia en direct de la capitale américaine. Lundi 18 février 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, voici les titres.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari appelle l'armée à être sans pitié envers ceux qui voudraient tricher, une déclaration qui intervient après le report d'une semaine du scrutin présidentiel.
La loi prévoit que la campagne peut se poursuivre jusqu'à 48 heures avant l'élection. Donc si la dite élection est reportée, cela rouvre ainsi la voie à la poursuite de la campagne.
Début ce lundi près de Ouagadougou des manœuvres militaires Flintlock.
Tension diplomatique entre le Kenya et la Somalie. Nairobi accuse Mogadiscio d'avoir attribué des permis d'exploration pétrolifère dans des blocs appartenant au Kenya.
Le Royaume-Uni a rejeté l'appel du président américain Donald Trump demandant aux pays européens de rapatrier leurs ressortissants arrêtés en Syrie.
Notre page économie, c'est dans 10 minutes.
Et bien sûr, ne ratez pas les sports. Yacouba Ouédraogo nous parlera du combat de l'athlète Caster Semenya devant le tribunal du sport.
Mais tout d'abord,
l'opposant congolais Martin Fayulu, qui se proclame vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, est reparti en campagne pour demander la vérité des urnes. Il compare sa situation avec celle du président autoproclamé Juan Guaido au Venezuela. Monsieur Fayulu, qui conteste l'élection de l'autre opposant Félix Tshisekedi, est arrivé lundi à Goma après deux précédentes étapes à Beni et Butembo dans l'est de la RDC, en proie à la violence des groupes armés. Mais il a encouragé la communauté internationale à ne pas reconnaître le président nommé, qualificatif qu'il utilise pour désigner Félix Tshisekedi.
Environ 2000 militaires des forces armées de 33 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique ont entamé ce lundi à Camboisin, près de Ouagadougou, des manœuvres visant à renforcer leur capacité opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le point avec Bagassi Koura.
Ces manœuvres vont durer jusqu'au 1er mars. Elles permettront aux participants de partager leurs expériences, d'acquérir et de perfectionner les savoirs et savoir-faire tactiques et techniques dans le cadre de l'antiterrorisme, selon l'état-major des armées burkinabées. Organisé depuis 2005 par AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, l'exercice Flintlock est une occasion pour consolider l'approche globale de la gestion des conflits et des crises engendrées par le phénomène du terrorisme en améliorant les mécanismes de collaboration et d'assistance au profit des populations victimes. Le Burkina Faso, pays hôte de l'édition 2019 de l'exercice multinational, abrite le poste de commandement principal à Camboisin et trois sites de manœuvre à Lumbila, Po et Bobo-Dioulasso. Un poste avancé clé a également été mis en place à Attar, 400 km au nord de Nouakchott, en Mauritanie, où un exercice se déroulera partiellement.
Le chef d'État nigérian Muhammadu Buhari a appelé l'armée à être sans pitié envers ceux qui voudraient truquer le scrutin de samedi, prévenant qu'ils le feraient au péril de leur vie. Un appel à tirer sur des innocents s'est aussitôt insurgé l'opposition. Ekiabadou.
La commission électorale indépendante a reporté au 23 février les élections générales, présidentielles, législatives et sénatoriales, initialement prévues le 16. Une annonce faite quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote samedi en évoquant de graves problèmes logistiques. J'ai ordonné à la police et à l'armée d'être sans pitié. Nous n'allons pas être tenus pour responsables à la place de ceux qui décident de voler des urnes ou d'utiliser des criminels pour perturber le scrutin, a déclaré le chef de l'État en lice pour un second mandat lors d'une réunion de son parti retransmise à la télévision nationale. Le principal parti de l'opposition, le Parti populaire démocratique, a lui aussitôt dénoncé des menaces. Nous savons que le président Buhari, qui s'est déjà targué d'être indétrônable, peut faire usage de moyens dictatoriaux et tyranniques pour empêcher le déroulement d'élections libres et transparentes, a regretté le PDP. Après l'annonce du report du scrutin d'une semaine, les deux principaux partis, le parti au pouvoir et le PDP, se sont accusés mutuellement de sabotage, mais ils ont tous deux appelé les partisans au calme en attendant le vote prévu samedi prochain.
Toujours au Nigeria, au moins 2 soldats ont été tués, 6 blessés dans une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre un poste militaire dans le nord-est près de la frontière camerounaise. Un milicien engagé aux côtés de l'armée dans la lutte contre Boko Haram a confirmé l'incident, précisant que les blessés avaient été évacués dans un hôpital près de Mara au Cameroun.
Au Niger, une personne a été tuée dans un attentat suicide commis par une femme à Bosso, dans le sud-est du pays. C'est ce qu'on a appris ce lundi auprès d'un élu local qui n'a toutefois pas apporté de détails sur les circonstances de cette attaque. Selon des témoignages sur les réseaux sociaux, une forte explosion a été entendue à des kilomètres de Bosso. Cette ville située près du bassin du lac Tchad a déjà été attaquée à de nombreuses reprises depuis 2015 par des combattants de Boko Haram.
Restons au Niger où une grève des enseignants a perturbé le fonctionnement des universités publiques ce lundi. Ils réclament une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur exige le versement du salaire de janvier 2019 pour les enseignants de l'université de Niamey, la prise en charge pour les assurances maladie, le versement des frais d'encadrement, de perfectionnement et de soutenance.
En Côte d'Ivoire, la grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, rentrée lundi dans sa 5e semaine, a été marquée par l'arrestation de 2 enseignants. Selon la présidence de l'université, un groupe d'individus conduit par le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs voulait perturber les cours et les examens.
Les autorités somaliennes tentent de calmer les tensions dans les relations avec le Kenya suite à la décision de Nairobi de rappeler son ambassadeur et d'expulser celui de la Somalie. Les précisions de Timothée de Langmaï.
À l'origine de ces tensions, une zone maritime de 5000 km² dans l'océan Indien que revendiquent les deux pays. Celle-ci recèlerait d'importants gisements de pétrole et de gaz. Dimanche, la Somalie a démenti avoir vendu aux enchères les droits d'exploration dans cette zone lors d'une conférence sur le pétrole et le gaz somalien le 7 février à Londres. Mogadiscio affirme avoir uniquement présenté quelques cartes maritimes et assuré que la Somalie n'entreprendra aucune activité dans la zone litigieuse tant que le différend n'aura pas été tranché par la Cour internationale de justice. Samedi, le Kenya a rappelé son ambassadeur à Mogadiscio pour urgente consultation, dénonçant ce qu'il a appelé la décision très regrettable et flagrante de la Somalie de vendre aux enchères les droits d'exploration pétrolière et gazière en territoire kényan. La Somalie a saisi la Cour internationale de justice en août 2014, après avoir, dit-elle, épuisé toutes les négociations diplomatiques.
Au Zimbabwe, une figure de l'opposition a été condamnée à payer une amende de $200 pour avoir proclamé illégalement la victoire de son camp lors des élections générales du 30 juillet dernier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Royaume-Uni a rejeté ce lundi la demande du président américain Donald Trump de rapatrier des djihadistes européens retenus en Syrie. Plusieurs autres États européens lui ont emboîté le pas. Les précisions avec Irénée Herman Ungbo.
Londres estime que les combattants étrangers de l'organisation État islamique devraient être jugés là où les crimes ont été commis. Berlin affirme de son côté que le retour des djihadistes européens ne pourra être possible que si des garanties étaient fournies, que ces personnes seront immédiatement envoyées devant un tribunal allemand et placées en détention. Paris et Bruxelles, réagissant aux propos du président américain, ont indiqué que les djihadistes doivent répondre de leurs actes là où ils sont inculpés. Ce sont les Kurdes qui les détiennent, notamment les djihadistes français, et nous avons toute confiance dans leur capacité à les maintenir en détention, a déclaré le secrétaire d'État français à l'intérieur, Laurent Nunez. L'Europe dit vouloir réfléchir tranquillement à la situation et regarder ce qui comporte le moins de risques sécuritaires. Les pays européens assurent cependant examiner toutes les options qui permettraient à leurs ressortissants de quitter la Syrie, en particulier les cas humanitaires.
Venezuela, 5 députés conservateurs européens refoulés dimanche à leur arrivée à Caracas ont annoncé qu'ils tenteraient d'entrer dans le pays samedi avec l'aide humanitaire américaine. Le gouvernement de Nicolas Maduro a refusé leur entrée sur le territoire par crainte d'une conspiration visant à favoriser son adversaire politique. L'opposant Juan Guaido a critiqué cette décision en dénonçant un régime isolé et toujours plus irrationnel à l'orée d'une semaine décisive avec l'entrée de l'aide humanitaire. Cette aide est bloquée depuis le 7 février. Le président Nicolas Maduro dénonce un prétexte à une intervention militaire américaine.
En Grande-Bretagne, 7 députés travaillistes ont annoncé qu'ils démissionnaient du principal parti d'opposition en raison de la gestion du Brexit et de l'antisémitisme du dirigeant de la formation Jeremy Corbyn lors d'une conférence de presse.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nanik Talani.
D'ici 2020, les collectivités locales en Guinée pourraient bénéficier d'un financement global de 146,4 millions de dollars. Ces fonds viendront des recettes nationales, mais aussi des bailleurs de fonds internationaux, dont la Banque mondiale et l'Agence française pour le développement. Selon la Tribune, cet argent sera destiné en priorité à supporter les projets d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. L'Éthiopie et le Djibouti ont signé un accord portant sur la construction d'un gazoduc pour acheminer le gaz éthiopien vers un terminal d'exportation situé dans l'état de la mer Rouge. Cet accord intervient plus d'un an après la signature d'un protocole d'entente pour l'investissement de 4 milliards de dollars dans la construction d'un gazoduc, d'une usine de liquéfaction et d'un terminal d'exportation dans la ville djiboutienne de Damerjog. Il était prévu que la production commence en 2018, mais le gouvernement éthiopien déclare que cela se produirait probablement en 2020. Terminons avec le Togo qui se prépare à lancer cette année un emprunt international de 200 milliards de francs CFA pour refinancer sa dette. Ecofin rapporte que cette stratégie permettra de substituer une partie de la dette togolaise intérieure libellée en francs CFA par une dette extérieure de maturité plus longue et à un taux plus bas. Lomé souhaiterait que l'emprunt soit libellé en euros pour se prémunir des contre-coups du risque de change, la monnaie européenne étant globalement stable et arrimée en partie fixe au franc CFA.
Et c'est la musique d'ambiance qu'annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Caster Semenya a entamé la course la plus difficile de sa carrière devant le tribunal arbitral du sport.
Oui, la double championne olympique sud-africaine du 800 mètres veut faire invalider le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme imposant aux femmes produisant beaucoup de testostérone de prendre des médicaments. Elle est entrée sans rien dire dans les locaux du tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse donc. Un peu plus tôt, Caster Semenya a publié un message sur Twitter sans équivoque. Dieu a déjà préparé le chemin au cœur des débats. Le règlement mis en place par l'IAF, il impose à ces femmes hyper-androgènes de faire baisser avec des médicaments leur taux de testostérone pour participer aux épreuves internationales de 400 mètres et plus. L'audience va se terminer vendredi.
Suite des huitièmes de finale aller en Ligue des Champions demain.
Oui, Liverpool accueille le Bayern Munich pour le choc du jour à Anfield entre le finaliste de la dernière édition et les Bavarois demi-finalistes l'année passée. Ce sera la sixième rencontre entre les deux équipes qui ne se sont plus affrontées depuis 2001 et une super coupe d'Europe remportée 3-2 par les Reds de Michael Owen face au Bayern Munich d'Oliver Kahn. Liverpool devra faire en défense sans son roc néerlandais Virgil van Dijk suspendu à l'aller. Dans l'autre match, le FC Barcelone se déplace à Lyon. Deux cadors européens ont déjà fait les frais de la jeunesse lyonnaise cette saison. Manchester City de Pep Guardiola battu 2-1 chez lui en phase de groupe. Puis le PSG défait pour la première fois en championnat cette saison. Il y a trois semaines. Reste que le Barça n'a jamais perdu face à Lyon en 6 matchs disputés, 4 défaites et 2 nuls. Et que l'OL sera privé à l'aller de son capitaine et maître à jouer Nabil Fekir suspendu.
Et enfin, NBA, la team LeBron gagne le All-Star Game avec un festival à 3 points, Yakuba.
Oui, la superstar LeBron James et ses coéquipiers d'un soir ont remporté le All-Star Game 178-164 à Charlotte avec un nouveau record de panier à 3 points face à l'équipe assemblée par l'ailier grec de Milwaukee, Gianni Antetokounmpo. Si la team LeBron James a remporté le match et le trophée de meilleur joueur attribué à Durant, c'est Antetokounmpo qui a fini meilleur marqueur avec 38 points. LeBron James a inscrit le panier le plus spectaculaire de la soirée, un dunk sur une surprenante passe avec ruban de Stephen Curry de retour dans la ville où il a grandi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Girondin et Abdourahmane Dia pour vous présenter les dossiers du jour.
Au Nigeria, la commission électorale est sous la pression des partis politiques pour avoir interdit la poursuite de la campagne après le report des élections. À Abuja, les détails avec Gilbert Tamba.
Malgré cette interdiction, les deux principaux partis, l'APC du président sortant Muhammadu Buhari et le PDP de son principal adversaire Atiku Abubakar, menacent de reprendre leur campagne électorale. Le PDP avait en premier lieu rejeté le report des élections par la CENI. Kola Oluwadunya, le porte-parole de son parti, met en cause les manœuvres du président sortant et le parti au pouvoir.
Nous avions exprimé notre préoccupation sur les relations entre le président Buhari et la CENI, sur les problèmes de logistique et leur mode d'opération. Nous avons aussi exprimé notre préoccupation. En plus, nous avions déclaré que toutes ces préoccupations que nous n'avons cessé de mentionner étaient dans l'intérêt de la CENI.
Comme l'opposition, le parti au pouvoir, APC, promet de poursuivre sa campagne, affirmant que c'était le seul moyen de garder ses partisans intéressés par les élections. Les deux principaux partis affirment que la décision de la commission électorale de ne pas autoriser la campagne est illégale. Mais que dit justement la loi électorale? La réponse de l'avocat Ogenovo Otemu.
La loi prévoit que la campagne peut se poursuivre jusqu'à 48 heures avant l'élection. Donc si la dite élection est reportée, cela rouvre ainsi la voie à la poursuite de la campagne. Donc c'était injuste pour le président de la commission d'interdire la campagne. Je pense qu'il n'a pas bien consulté le département légal avant de faire cette déclaration.
Le report des élections samedi dernier par la CENI à quelques heures de l'ouverture des bureaux avait suscité une vague d'indignation dans le pays. Certains électeurs s'étaient déjà rendus devant leur bureau de vote pour pouvoir voter. La Commission électorale nationale indépendante devait tenir une réunion d'urgence lundi pour se pencher sur la question. Le parti au pouvoir, réuni ce matin, a demandé au gouvernement fédéral l'ouverture d'une enquête pour déterminer les raisons qui ont poussé la CENI à reporter les élections présidentielles et législatives du samedi. Le président sortant Muhammadu Buhari, qui a assisté à la rencontre, a demandé aux agences de sécurité de prendre des mesures contraignantes contre ceux qui vont chercher à perturber le scrutin du 23 février prochain. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, depuis la dernière élection présidentielle, de profondes dissensions sont perceptibles entre les Camerounais vivant en Occident, selon la plateforme des Camerounais de la diaspora, baptisée Brigade des Patriotes Camerounais. Ces querelles politiques suscitent de vives réactions des Camerounais au pays. La correspondance d'Emmanuel Juntap à Yaoundé.
La communauté camerounaise en Occident est au bord de l'implosion à cause des positions partisanes pendant l'élection présidentielle et les revendications post-électorales. Christian Diana et Amer Eone sont des Camerounais vivant en France et membres de la plateforme dite Brigade des Patriotes Camerounais.
Il y a eu des agressions, des menaces de mort, des gens ont été menacés que si on venait là, on allait nous tuer. C'est un groupuscule de personnes qui font ces choses-là. Mais avant, il y avait un vivre ensemble.
Aujourd'hui, on ne se dit plus bonjour au sein de la diaspora. Depuis le saccage des ambassades, on ne se parle plus.
Le climat est amer. La scission de la diaspora camerounaise en Occident affiche aussi deux grandes factions diamétralement opposées. Guylaine Dimolu-Chapuy, une Camerounaise vivant en Suisse et membre de la brigade des patriotes camerounais.
Si vous êtes du RDPC, vous êtes combattu. Si vous n'êtes que patriote, vous êtes combattu. Il faut être du MRC pour être tranquille. Après les élections, ça s'est vraiment effrité par cette histoire du hold-up.
Sur le plan idéologique, les membres de la brigade des patriotes camerounais se disent républicains, loyaux aux institutions. En plus d'être l'interface de la brigade anti-Sardina, opposée au président Paul Biya. Sur place à Yaoundé, des voix se lèvent pour s'insurger contre la dérive tribale qui a désormais pignon sur rue sous couvert des appellations de tontinard et sardinard au sein de la diaspora. Figmin Babake, président de l'association Stand Up Africa, un organisme panafricain de la société civile.
Les origines du mot sardinard. Le professeur Maurice Kamto, lors d'un de ses meetings à Baham, avait dit ceci. Eux, ils sont fatigués de tontiner au profit des autres. Et que l'heure est venue pour qu'eux aussi prennent les choses. Et c'est comme ça que le professeur Onangini, lors d'une intervention, a dit ceux qui sont fatigués de tontiner sont des tontinards. La réplique en Europe est devenue plutôt des sardinards. Et nous trouvons ça injuste.
La justice camerounaise soupçonne certains militants du MRC, le parti de l'opposant Kamto, d'être de connivence avec les membres de la brigade anti-sardinard, auteurs de saccage des ambassades. Ce que refute l'avocat Emmanuel Sim, par ailleurs, vice-président du MRC.
On a essayé de lier les faits qui se sont produits dans les ambassades du Cameroun, aussi bien à Berlin qu'à Paris, à nos clients qui pourtant se trouvaient au Cameroun. Ici, on vise l'article 10 du Code pénal qui dit qu'une infraction commise à l'étranger par un Camerounais peut être poursuivie au Cameroun. Mais comment peut-on dire que nos clients ont pu avoir commis des actes matériels de vandalisme à Paris alors qu'ils étaient au Cameroun.
Akere Mouna, l'un des membres de l'opposition camerounaise, a récemment déclaré que le Cameroun était au bord du chaos en raison de la fragilisation du vivre ensemble. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, a démarré ce lundi l'opération Flintlock 2019, un exercice militaire annuel conjoint entre des forces occidentales et celles de plusieurs pays d'Afrique. Plus de 2000 soldats africains, européens et américains y prennent part. Lors d'un échange téléphonique avec la presse, les responsables américains ont souligné que cette année, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des pays du G5 Sahel. Bagasikoura nous en dit plus.
Le pays d'accueil cette année est le Burkina Faso qui a vu sa situation sécuritaire se détériorer de façon inquiétante ces dernières années. Plus de 2000 soldats de 34 pays africains et occidentaux vont participer à Flintlock à partir de ce lundi 18 février jusqu'au 1er mars. Le major général Marcus Hicks est le commandant des opérations spéciales d'AFRICOM.
Le Flintlock de cette année inclut 34 pays. Il y a 15 nations africaines et 19 pays occidentaux. En plus, il y a le Japon et l'Arabie Saoudite en tant qu'observateurs. Plus de 2000 participants, dont la plupart recevront une formation, soit pour les unités tactiques, soit pour le maintien de QG.
L'accent sera mis sur la formation des pays membres du G5 Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso. Le major général Marcus Hicks.
Notre objectif n'est donc pas simplement de réussir un autre exercice militaire, mais de doter les forces partenaires de réelles capacités.
Les unités chargées de la protection du quartier général du G5 Sahel, déjà détruites par les djihadistes, auront une formation spéciale. Mais la lutte contre le terrorisme n'est pas que militaire. Et les États-Unis veulent aussi soutenir le développement dans les pays africains. Andrew Yang est l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso.
Nous nous attaquons aux questions liées au développement économique, la tolérance sociale et à l'instabilité. Nous donnons les possibilités aux voix modérées. Nous sommes donc très heureux d'avoir soutenu le Burkina Faso et les autres membres du G5 Sahel. Je considère le G5 comme une institution de la région, par la région et pour la région.
Of the region, by the region, and for the region.
républicains.
La question des droits de l'homme a également été évoquée suite à des allégations d'abus qu'auraient perpétré les forces burkinabées contre des civils. La réponse de l'ambassadeur américain Andrew Yang.
Nous prenons les allégations de violation des droits de l'homme avec beaucoup de sérieux.
Alors que la lutte contre le terrorisme dans le Sahel s'intensifie, les États-Unis espèrent que cette opération permettra d'équiper et de former les troupes du Sahel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Direction le Gabon, où les tortues luttes sont en danger face à l'érosion côtière à Libreville. Elles y éprouvent d'énormes difficultés à se trouver des lieux de ponte. En plus de cela, les déchets plastiques menacent la survie de cette espèce. Plusieurs ONG plaident pour la protection de tortues marines sur les plages de Libreville. C'est un reportage d'Ismaël Obiangze.
Liese Okili, jeune garçon de 9 ans, sait déjà que les déchets plastiques constituent un danger pour les tortues luttes, d'où son engagement aux côtés d'autres bénévoles de l'ONG Sanga sur cette plage du Tropicana au nord de Libreville.
Depuis le matin, mon gros butin des déchets, c'est ça. Il y a des babouches, des tubes dentifrice, il y a beaucoup de plastique.
Dans sa lutte contre les activités de l'homme autour des milieux marins, l'ONG Sanga a décidé de préserver les zones de ponte de tortues luttes par des campagnes de salubrité régulières. Sonia Orando est membre de l'ONG Sanga.
On est là en fait pour nettoyer les plages parce que cette plage en question, elle a été considérée comme zone de ponte des tortues marines. Donc quand elles viennent pondre et que les bébés éclosent, l'accès à la mer est rendu beaucoup plus difficile parce qu'elles sont entravées par la présence d'obstacles et de déchets divers. Donc on est là un petit peu pour débarrasser ça, pour leur libérer le passage.
La problématique des tortues sur les plages de Libreville reste une constante dans la capitale gabonaise. Avec la saison des pluies qui correspond à celle de la ponte des tortues marines, ce phénomène inquiète davantage les spécialistes de la biodiversité. Docteur Mireille Johnson, spécialiste en biologie de conservation.
Elles sont victimes de gros problèmes liés à l'environnement, la pollution de l'environnement, et notamment donc les filets utilisés par les pêcheurs, les plastiques qui sont rejetés dans la mer, que les tortues confondent à leurs aliments, notamment les méduses.
Autre menace qui place les tortues luttes en danger, leurs plages disparaissent progressivement au Gabon ces 5 dernières années. L'océan a gagné plus de 100 mètres sur la terre, grignotant la côte 10 fois plus rapidement que lors des décennies précédentes. Libreville, Ismaël Obiangze pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
She was up.
Voilà, cette belle musique. Donc, on se quitte avec cette belle musique choisie par Michel Joseph, qui a mis en onde cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la console, il y avait Alfredo. Présentation Abdourahman Dia et Raïssa Gironda.
On reste connectés sur Facebook et sur notre page internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. I know I was coming home.